Et sœurs, aujourd'hui est un jour quelque peu spécial. Nous sommes dans le long week-end dit pascal et beaucoup de chrétiens du monde entier sont en train de célébrer la fête de la Pâque. Il faut le savoir, la fête de la Pâque est l'une des fêtes les plus importantes, j'ai envie de dire, du monde chrétien. Et on peut le dire sans aucune crainte, la Pâque est au cœur même, je dis bien au cœur même, un bien de la foi chrétienne. Aussi, je pense que il est bon ce matin qu'on puisse un petit peu nous entretenir sur ce thème. Et bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu, je voudrais vous encourager ce matin à découvrir trois vérités concernant la Pâque. Et pour ce faire, on va bien sûr relire ce qui concerne l'institution de cette fameuse Pâque. Et pour cela, il nous faut aller au deuxième livre de la Bible, c'est-à-dire le livre d'Exode, au chapitre 12, qui ne connaît pas ce passage du verset 1 au verset 14. Alors je vous laisse le temps de le chercher et ensemble nous allons lire ce qu'il en a été et dans quelles circonstances et de quelle façon, bien sûr, la Pâque a été instituée pour tout ce peuple, le peuple hébreu qui était retenu captif jusqu'alors dans ce pays d'Égypte. On lit ensemble. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et même l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et enfin, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen et amen. Alors voyons donc maintenant trois vérités concernant la Pâque. Et s'il y a une première vérité que je pourrais vous citer ce matin, c'est que la Pâque est avant tout une commémoration. La fête de la Pâque permet au peuple hébreu, puisqu'il concerne là à l'origine un peuple, le peuple hébreu, le peuple choisi par Dieu, le peuple hébreu de se rappeler d'un souvenir important de leur histoire. En effet, la fête de la Pâque a été instituée par Dieu pour que le peuple hébreu se rappelle de quelle manière Dieu l'a puissamment, c'est bien le mot, délivré de l'esclavage en Égypte. Et c'est ce que nous avons lu d'ailleurs au dernier verset, on va le relire, le verset 14, Exode chapitre 12, verset 14. Et c'est Moïse qui dit au peuple de la part de Dieu, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Ainsi, quelque part, le souci de Dieu. Le souci de Dieu, c'était ni plus ni moins, bien que le peuple hébreu conserve, j'ai envie de dire de génération en génération, le souvenir de ce grand jour, grand et glorieux, où Dieu, à bras étendus, a pu libérer tout un peuple qui était retenu captif, entre les mainmises de ce monarque de l'époque, c'est-à-dire le grand roi Pharaon. Même l'observance, et ça il faut faire la remarque, même l'observance du jour du repos, c'est-à-dire le sabbat, devait permettre également au peuple d'Israël, au peuple hébreu, de se souvenir de quelle manière Dieu l'a délivré de l'esclavage en Égypte. Vous savez qu'il y a eu 10 commandements que Dieu a énumérés, a cités aux oreilles de tout le peuple à l'issue de leur sortie du pays d'Égypte. Et on constate que le 4e de ces commandements a bien fait mention de l'observant du sabbat. Et Moïse a rappelé dans le Deutéronome, a rappelé ces 10 commandements. Et il va dire ce que je voudrais aussi placer devant vos yeux, Deutéronome chapitre 5, les versets 12 à 15. Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15. Et il dit, observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras, voilà, Moïse explique à ce moment-là, au verset 15, la raison d'être du sabbat, la raison d'être, eh bien, de la mise en pratique de ce 4e commandement. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Et nous observons encore aujourd'hui le jour du sabbat. Alors c'est vrai, on n'est pas bien, parce que proprement dit, le sabbat, c'est le samedi. C'est le samedi. Nous avons choisi le dimanche, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais ce n'est pas tant l'observance du jour qui est important. Mais c'est de comprendre la raison d'être, de mettre à part dans toute notre semaine un jour où, loin de tout, peut-être les adversités de la vie, loin de tout, peut-être les besoins de chaque jour, nous puissions nous concentrer sur ce Dieu qui a usé de miséricorde. Et on a eu raison ce matin de pouvoir à plusieurs reprises chanter et célébrer la grâce de Dieu qui un jour nous a atteint. C'est ça qui est important. La Bible dit, certains observent les jours du sabbat, observent les jours, ils le font pour Dieu. D'autres les trouvent tous égaux et ils le font également pour Dieu. Ça, je précise, ce n'est pas l'observance du jour qui est important, mais dans quel état d'esprit nous venons devant Dieu et dans quel état d'esprit nous comprenons que Dieu, il nous a tellement aimés d'un si grand amour. C'est ainsi que, donc, au travers des siècles, la fête de la Pâque fut célébrée par le peuple juif. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur cette terre, quand il s'est incarné, il a pris une chair comme la nôtre. Il a observé, on peut le dire, tous les moments où il fallait qu'il pratique la Pâque. Et même avant qu'il fût livré aux Romains, Jésus a désiré une dernière fois prendre la Pâque avec ses disciples. Et ce passage, il est très court, mais il en dit long sur l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Luc chapitre 22 et le verset 15, ne le cherchez pas, il est tellement court. Il nous a dit, et c'est Jésus qui parle, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Il précise, « avant de souffrir. » Il savait ce qui allait lui arriver. Rappelez-vous, je vous rappelle le contexte, il était dans la chambre haute avec les disciples. La Pâque avait été préalablement préparée, donc l'agneau avait été acheté et il avait été rôti. Il y avait les herbes amères, il y avait tout ce dont on avait besoin, les pains sans levain, qui étaient là pour préparer ce saint repas, cette fête de la Pâque. Et il dit, Jésus, à un moment, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Pouvons-nous imaginer une seule seconde ce que cette ultime Pâque pouvait représenter pour notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons pleinement la réaliser? Cette dernière Pâque qu'il était en train de consommer avec ses disciples était en fait une préfiguration, c'est le mot, de son propre sacrifice. Quelques heures plus tard, il allait être arrêté dans ce jardin de Gethsémané et on allait le mener sur ce lieu, le mont Golgotha, ce lieu de supplice. Et tout cela, le Seigneur Jésus le savait d'avance. Il le savait d'avance. Lui, l'agneau de Dieu, allait être sacrifié pour qu'en retour, nous soyons épargnés de la mort. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jean-Baptiste, quand il l'a vu, le Seigneur Jésus passer, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est l'apôtre Paul qui a dit mieux en disant dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, et c'est encore plus flagrant, il dit, deuxième partie de ce verset, je le lis entièrement, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » De la même manière, et là je fais un parallèle avec ce qu'a expérimenté le peuple hébreu, eh bien, alors qu'ils étaient encore en captivité en Égypte, de la même manière qu'il a fallu un agneau sans défaut pour chaque foyer hébreu. Ceci afin que chaque foyer hébreu puisse premièrement être épargné par l'ange destructeur, mais aussi qu'il soit délivré de l'esclavage en Égypte. De même, Jésus, qui est l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, a été offert en sacrifice sur la croix pour nous délivrer de l'esclavage du péché et nous donner d'accéder à la vie éternelle. C'est une réalité. C'est ce que nous annonce d'ailleurs, de toute façon, l'évangile que nous avons embrassé, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, quand on rappelle bien souvent Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Nous rappelons finalement la Pâque. Nous rappelons le sacrifice de Jésus. Nous rappelons que l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, a dû accepter de pouvoir prendre ce châtiment à notre place. Je peux le dire, il y a comme une grande similitude entre la fête de la Pâque et puis, bien sûr, le message de l'Évangile. Le message de la Pâque se superpose, s'imbrique avec le message de l'Évangile. C'est pour cela que finalement, au beau milieu de la Pâque, au beau milieu de cette fête, la dernière fois où Jésus l'a prise avec ses disciples, Jésus, au cœur même de cette fête de la Pâque, il a institué une nouvelle commémoration. Eh oui, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, et c'est l'apôtre Paul qui le rappelle. On va le lire, on va prendre le temps. Souvent, on prend ce texte en introduction à la Sainte Cène, et on a raison. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23. En attendant que ça se projette sur l'écran, on va le lire. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, qu'est-ce que vous faites? Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Au cœur même de la fête de la Pâque, il y a un autre souvenir qui doit forcément prédominer. La fête de la Pâque, c'est le souvenir du sacrifice de Jésus sur ce bois infâme. C'est pour ça que tout à l'heure nous avons pris le pain et le vin. Pour cela qu'il ne faut jamais s'habituer à prendre le pain et le vin. On a besoin de ne pas être ce matin des auditeurs oublieux, mais nous rappeler que l'œuvre de Jésus-Christ a été suffisante et efficace pour nous pardonner de tous nos péchés et nous donner à être libres. Jésus t'a rendu libre ce matin. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle lorsque nous prenons le pain et le vin. Ce que le Seigneur Jésus voudrait que nous puissions, de manière solennelle, nous rappeler les uns et les autres. Oui, la Pâque est avant tout une commémoration, un souvenir qui nous invite, qui était comme une préfiguration de ce que Jésus-Christ allait accomplir sous le bois infâme de la croix. La fête de la Pâque est une introduction à cette autre commémoration, qui est la scène qui se trouve d'ailleurs au cœur même de nos rassemblements dominicaux. Au cœur même de nos rassemblements, nous partagerons le pain, nous rompons le pain, qui nous rappelle que le corps du Christ a été brisé. Et nous prenons cette coupe ou ces gobelets, là aussi c'est la forme Ce n'est pas important. Mais nous réalisons que le sang de Christ a coulé. Pas sur les poteaux ou les linteaux, à bien des maisons à l'époque des Hébreux. Il a coulé sur le bois de la croix. Mieux encore, le sang de Jésus a coulé sur notre cœur pour nous purifier et nous laver de tout péché. Que Dieu soit béni. Deuxième vérité que je voudrais placer devant vos yeux, et toujours concernant la Pâque. La Pâque, eh bien, correspond à un passage. Le mot « Pâque » est le dérivé d'un verbe hébreu qui signifie « passer outre ou par-dessus », dans le sens d'épargner. Et on le comprend bien lorsqu'on a lu en introduction le texte dans Exode chapitre 12. Nous le savons, lors de la dixième et dernière plaie d'Égypte, l'ange destructeur, qui avait pour mission d'exterminer tous les premiers-nés des hommes et même des animaux, qui se trouvaient sur tout le territoire d'Égypte, lorsqu'il est arrivé sur les maisons des familles hébreux, il a vu le sang sur les poteaux et sur les linteaux de chaque porte. Et à ce moment-là, l'ange destructeur est passé au-dessus, épargnant tous les premiers-nés des Hébreux. On connaît, on comprend cette signification. Mais il faut savoir aussi que le mot Pâque se traduit en hébreu par le mot Pessa ou Pessac, et qui exprime une idée de passage cette fois-ci. Et quelque part, l'institution de la Pâque a servi à signifier au peuple hébreu son passage de sa condition d'esclave à sa condition de peuple libre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin ? Le peuple hébreu qui était jusqu'alors réduit à l'esclavage allait bientôt goûter à la liberté. Et mieux encore, Dieu l'avait placé sur un chemin, une voie, un passage qui allait les conduire vers la terre promise. Il y avait une terre promise, Canaan, qui était destinée au peuple de Dieu. Et tout ça, ils allaient pleinement l'expérimenter au travers de cette dernière et dixième plaie. Et je veux dire qu'il y a aussi là pour nous une similitude, un parallèle que nous pouvons faire avec l'évangile de Jésus-Christ que nous avons expérimenté. Lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on s'est converti à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu, dans son amour, c'est vrai, par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sous la croix, nous avons été pardonnés de nos péchés, c'est vrai. Mais Dieu lui-même nous a placés également sur un chemin. Il nous a placés sur une voie. Il nous a aiguillés sur un passage qui allait nous emmener directement, alléluia, qui nous amène encore vers la vie éternelle. Et ce passage, il a un nom. Allez, aidez-moi à le citer. Ce passage, il a un nom. C'est une personne. C'est le Fils de Dieu. C'est Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus a souvent utilisé cette idée de passage lorsqu'il avait besoin d'instruire les foules qui l'écoutaient. Quand on prend par exemple Jean chapitre 10 et le verset 9, regardez ce qu'il est dit. Jésus dit « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il y a là, au travers de cela, sous-entendu bien sûr, une idée de passage. Il faut passer par la porte. Et Jésus est la porte, la seule porte qui peut nous sauver ce matin de, alléluia, de la perdition et de la perdition éternelle. Un autre exemple plus flagrant, Jean chapitre 14 et le verset 6. Jésus qui dit à ses disciples, je suis quoi ? Le chemin ? La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez pas qu'il y a une idée là de passage aussi ? Dieu trace un chemin. C'est pas la religion qui nous mène au Père. C'est pas nos pratiques religieuses ou même nos bonnes actions qui pourraient nous justifier devant le Père. C'est l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Il est le chemin, il est le passage. Et même Jésus, par son œuvre à la croix, nous a inauguré un passage pour aller vers le Père. J'ai vraiment à cœur, certainement pour la rentrée prochaine, de pouvoir commencer une étude qui va peut-être perdurer sur plusieurs mardis, une étude sur le tabernacle. Vous savez que Dieu avait demandé à Moïse de pouvoir édifier un tabernacle. Il y a dans ce tabernacle trois parties. Et ça nous renvoie à nous-mêmes ce que nous sommes des êtres trinitaires, corps, âme et esprit. Et il y avait le parvis, mais il y avait le lieu saint et le lieu très saint. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous a permis d'entrer non pas seulement dans le parvis, non pas seulement dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Je peux librement, à n'importe quel moment, entrer dans le lieu qui était réservé à l'époque, une seule fois par an, au souverain sacrificateur. Mais Jésus lui-même, par son sang précieux, au moyen de son sang, a littéralement déchiré le voile, alléluia, qui nous séparait entre nous et Dieu. Alléluia. Et nous pouvons entrer librement dans la présence de Dieu. C'est la Bible qui le dit dans le livre d'Hébreux. On ne connaît pas l'auteur de ce livre d'Hébreux. On le retrouvera certainement au ciel, cet homme. Mais combien il a été inspiré quand il dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Verset 20. « Par la route nouvelle. » Vous voyez, une idée de passage par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, alors approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien sûr, on ne peut pas entrer dans le lieu très saint n'importe comment. Il y a des conditions qui sont énumérées là. Mais l'invitation, elle est là. Approche-toi, mon frère, ma sœur, de ce lieu très saint. Approche-toi de ton Père céleste. Je le dis malheureusement, et ça a été rappelé donc vendredi soir, nous sommes rendus bien à la fin des temps, et la Bible nous parle que dans la fin des temps, avant le retour du Seigneur, il y a comme une apostasie, un abandon de la foi. Et cet abandon de la foi, il peut se faire petit à petit. Et on peut venir et même venir à l'église et puis être complètement indifférent à la parole de Dieu, indifférent au fait que Dieu est devenu notre Père et que nous sommes devenus son enfant. On peut comme cela s'enquiloser et puis à cause des soucis de la vie et puis des plaisirs de ce monde, s'éloigner insidieusement, loin du Père. Dieu te dit ce matin, approche-toi avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, approche-toi de ce Père céleste qui est capable de répondre à tous tes besoins, qui est capable de te donner tout ce dont ton cœur a besoin. Ne nous privons pas de cette libre entrée dans la présence de Dieu le Père, grâce au passage que Jésus-Christ a inauguré par son œuvre à la croix. Amen. J'ai parlé de trois vérités. On a vu premièrement que la Pâque est, c'est vrai, une commémoration, c'est-à-dire le souvenir d'un événement bien précis qui a marqué l'histoire du peuple hébreu. On vient de voir que la Pâque correspond à un passage, et ce passage, nous l'avons également entrepris en acceptant Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. La troisième et dernière vérité que j'aimerais vous partager est concernant la Pâque correspond également à un triomphe. Alors là, j'aurais aimé entendre un amen. La Pâque correspond à un triomphe. Imaginez-vous ce peuple hébreu qui était retenu captif durant 4 siècles, 400 ans, sous la mainmise d'un homme qui est méchant d'ailleurs, qui avait le seul objectif, c'était de détruire le peuple juif. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. 400 ans. Il a fallu qu'ils attendent 400 ans. Le temps est arrivé pour que le peuple hébreu reçoive une pleine liberté. Et pour ce faire, Dieu s'est choisi un homme, un simple homme, Moïse. Sauvé des eaux, Moïse, aidé, muni d'un bâton, d'un simple bâton, a pu non seulement défier, mais même terrasser le plus grand monarque de toute l'histoire, et donc de l'ancien monde. Pharaon était même considéré comme un dieu. Ses ordres étaient exécutés à la lettre. Et il n'avait que faire de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a montré qu'il est le Tout-Puissant et on l'a entendu au travers des dons spirituels ce matin. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire ? Rien n'est impossible à Dieu. Et je veux même aller plus loin. Même ce qui s'est passé concernant le peuple hébreu, la captivité, les 400 ans, et puis même après la délivrance, tout ça, Dieu l'avait déjà annoncé à son serviteur Abraham. Abraham, à qui Dieu avait donné une promesse, tu seras le père d'une multitude. Et lui, qui était avancé en âge, et son épouse qui était stérile et qui était également avancée en âge. Mais quand Dieu fait une promesse, il veille à l'accomplir. Et regardez avec moi ce texte qui est étonnant et qui doit nous rassurer ce matin. Genèse chapitre 15, versets 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham... Donc le peuple hébreu n'était pas encore en Égypte, il n'y avait pas encore tout ça. Il n'y avait qu'un seul homme, Abraham. Il ne s'appelait même pas encore Abraham, il s'appelait Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. savez, quand Dieu parle, quand les hommes parlent, c'est une chose. Mais quand Dieu parle, il ne parle jamais en vain. Il avait déjà raconté à cet homme, Abraham, eh bien, l'histoire, eh bien, entre autres, eh bien, du peuple hébreu en Égypte. Ils vont rester 400 ans dans l'esclavage, pas plus. Il va aussi préciser qu'ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Vous savez que quand ils sont sortis du pays d'Égypte, non seulement ils ont été libres, mais ils ont trouvé grâce auprès des Égyptiens qui leur ont donné de l'or, de l'argent, et tout ça va servir par la suite à construire le tabernacle. Le Seigneur, il a tout prévu. Vous savez qu'il n'y a pas une seule situation qui échappe à l'omniscience et à la souveraineté de Dieu. Tu t'agites, tu t'inquiètes par rapport à ton problème, par rapport à tes difficultés, mais parce que tu ne me connais pas. Tu ne sais pas que c'est moi qui maîtrise même le temps, les circonstances. Il maîtrise le temps parce que même il est hors du temps. C'est lui qui a créé le temps. Alors essayez d'imaginer ça. Il est au contrôle. Et il te dit ce matin, arrête de t'inquiéter. Mais regarde à ce Dieu tout-puissant qui est capable d'intervenir. Oui, la Pâque correspond à un triomphe. Le triomphe de la liberté sur l'esclavage. Mais pour nous, chrétiens, c'est clair. Et j'en arrive bientôt au bout. La fête de la Pâque correspond au triomphe de la vie sur la mort. Pourquoi je dis ça? Parce que le troisième jour après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est ressuscité. La mort ne pouvait pas le retenir. Et ce fut un dimanche de Pâques que Jésus ressuscita d'entre les morts. Et qu'il laissa derrière lui un tombeau vide. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, je suis parti en Israël pour vérifier et il n'y avait personne. Je suis entré, j'ai dit, il y a quelqu'un? Et même pas. Personne n'a répondu parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Vous savez qu'il y avait une pierre qui était et qui obstruait l'entrée du tombeau, l'entrée du sépulcre. Elle-même, a dit mon frère, a été scellée, cette pierre. Et plus encore, on a mis pendant 3 jours durant ces soldats pour surveiller 24 heures sur 24 que personne ne vienne embarquer le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le diable a tout fait pour empêcher la résurrection de Jésus, le prince de la vie. Mais toutes ces précautions n'ont fait que rendre plus éclatante la résurrection du Fils du Dieu vivant et vrai, Jésus-Christ. Le Dieu que je parle, dont je fais mention ce matin, est un Dieu qui est vivant. Il est présent. Et on a besoin de pouvoir vivre notre vie chrétienne en réalisant que Jésus-Christ n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Oui, Jésus-Christ est mort, mais Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Un ange du ciel roula lui-même la pierre et la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a ressuscité Christ d'entre les morts. Et c'est alors que la résurrection de Jésus-Christ a bien été un sujet de bénédiction pour toute l'histoire de l'humanité. Une page de l'histoire de l'humanité s'est tournée. C'est, j'aime à le dire, la résurrection de Jésus-Christ a déclenché le plus grand plan de sauvetage de toute l'histoire de l'humanité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le plus grand plan de sauvetage de toute l'histoire de l'humanité. Et qui permet à l'homme ou à la femme, assez humble mais rempli de foi, pour crier à Dieu. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Celui ou celle qui place sa foi en Jésus-Christ obtient non seulement le pardon de ses péchés, mais aussi, alléluia, l'assurance qu'il obtiendra la vie éternelle, qu'il a déjà la vie éternelle et qu'il sera éternellement dans la demeure du Père. La résurrection de Jésus-Christ est pour nous, chrétiens, synonyme d'espérance et de consolation. L'apôtre Paul a dit, consolez-vous donc les uns les autres par cette vérité. C'est que la même manière que Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Je décollerai. En un clin d'œil, en un instant, quelqu'un dit « moi aussi ». Mais chacun doit parler pour sa part. Pour ça, je ne peux pas et je ne veux pas m'attacher aux choses de ce monde. Les choses de ce monde passent. Mon énergie, mon amour, je veux le donner pour le Seigneur. Et Dieu seul sait combien j'ai des progrès à faire. Mais sa grâce, on l'a chanté, sa grâce infinie sera m'accompagner jusqu'au bout du voyage. C'est clair, nous ressusciterons de la même manière que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Mais mieux encore, et on l'a chanté aussi, nous sommes déjà spirituellement ressuscités avec Christ. Regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Tiens. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pas beau ça ? Spirituellement parlant, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, même si j'ai les pieds sur terre, même si je marche encore dans ce bas monde. Mais à un moment donné, la révélation des fils de, alléluia, du Dieu vivant, eh bien, va être effective. Et non seulement nous décollerons en un instant, mais nous serons transformés, eh bien, en l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'espérance des croyants. Voici, eh bien, ce que nous enseigne aussi la Pâque, le triomphe de la vie sur la mort. Le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous devons donc témoigner avec force au monde entier que Christ est réellement ressuscité, comme l'a fait les apôtres. Actes chapitre 4, verset 33, dernier verset, très court, mais qui en dit long. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est une chose de parler de la mort de Jésus. C'est une première dimension. Mais nous sommes appelés à rendre avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Parce que si Jésus-Christ était resté au tombeau, eh bien, nous ne serions pas un sujet d'espoir pour le monde entier. Mais parce qu'il est mort et ressuscité, nous avons un message d'espoir à communiquer à ceux et celles, alléluia, qui nous entourent. Profitons de ce week-end de Pâques pour être des témoins efficaces, bien sûr dans nos familles, auprès de nos amis, et témoignons-leur que Jésus est vivant et qu'il est aussi l'espoir de leur vie. Prions ensemble le Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour la fête de la Pâque. C'est vrai Seigneur Père mon Dieu, ce qu'a vécu le peuple hébreu déjà était déjà un sujet de joie, mais c'était aussi surtout une préfiguration annonciatrice Seigneur Père mon Dieu de ta venue, mais aussi de ton sacrifice à la croix. Ton sang était suffisant, efficace pour nous pardonner de nos péchés et pour nous rendre libres de l'esclavage du péché. Tu m'as libéré, tu en as fait autant pour mon frère, pour ma sœur. C'est pour cela, ce matin, nous voudrions nous réjouir. Parce que Seigneur, mon Dieu, ta victoire a été totale et complète. Ton triomphe a été excellent. À la croix, c'est vrai, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Mais le troisième jour après ta mort, Seigneur, tu es ressuscité. Et tu es vivant maintenant au siècle des siècles. Tu es le prince de la vie et tu es capable de communiquer la vie à ceux et celles, Seigneur Père mon Dieu, qui le demandent. Tu es prêt même à ramener à la vie toute situation qui peut être morte, qui peut être considérée comme morte, parce que rien n'est impossible à toi. Seigneur, tu nous l'as rappelé, Seigneur Père, en nous montrant, en nous prouvant par A plus B que tu étais déjà au contrôle de ce que pouvait vivre le peuple hébreu. Tu avais déjà raconté ce qu'était l'histoire, ce que serait l'histoire du peuple hébreu. En Égypte, un homme, et pas n'importe lequel, le père de la foi, celui qui a choisi de te faire confiance. Seigneur, ranime notre foi ce matin, ranime notre confiance en toi. Pardon pour notre incrédulité, pardon Seigneur quand nous doutons de qui tu es, de ta grandeur, de ta puissance. Tu peux tout et rien ne t'est impossible. Seigneur, bénis-nous au travers de ce long week-end de Pâques, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Frères et sœurs,